découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Bonjour Véronique.
Bonjour Fabrice.
Ah, Véronique Lies sur Nutri Radio, c'est un poème, c'est une couleur, c'est un son, c'est un goût. Qui
n'a... Bon,
bah, je sais pas, j'essaie de surfer sur les sens là, peut-être d'autres idées, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, on est ravis de vous retrouver pour ces émissions La Révolution Microbiote, et comme vous prenez la confiance, comme on dit, comme vous prenez la confiance, vous avez dit, mais moi je voudrais avoir un invité, et bien oui, c'est votre émission. Donc, avant d'accueillir cet invité mystère, invité illustre, vous m'en avez dit que du bien depuis des mois, des semaines, et il n'est pas toujours disponible, donc là on en a profité. Juste vous dire, vous remercier d'écouter de plus en plus nombreuses ces émissions, de vous abonner si vous le faites en podcast, car ça nous sert beaucoup. Et donc, on remercie notre invité, il est gastro-entérologue. C'est un bruit, c'est un son, c'est une image. Le docteur Julien Scanzi, bonjour Julien.
Bonjour Fabrice et bonjour Véronique.
Bonjour Julien.
Alors, si vous étiez une couleur, vous seriez laquelle, Julien?
Allez, du bleu.
Le bleu, ah bah bleu. J'aurais deviné.
Ah bah oui, bah en plus ah bah là oui, je suis sûrement sur la page Insta, il y a du bleu partout évidemment. Si vous étiez une odeur, vous seriez quelle odeur?
Non, on va pas répondre
oui,
à ça.
Oui, bon, très bien. Gastro-entérologue. Gastro-entérologue.
On part sur des chemins.
Ne répondez pas à cette question, je me rends compte que ce n'est pas du tout adapté au profil de cette émission. Bon, allez, Véronique, je vous laisse présenter votre invité.
Mais oui, mais en fait, je ne dois même pas le présenter parce que tout le monde connaît Julien Scanzi, gastro-entérologue. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment que bah, vous n'êtes pas intéressé par le sujet. Donc, changez de chaîne. Et puis, donc, Julien, bah oui, là, sur les réseaux sociaux, il partage tout un tas de connaissances, de posts
plus il magnifiques. Pèse, hein. C'est un homme qui pèse hein,
voilà,
sur les réseaux sociaux.
Exactement. Et puis pas que sur les réseaux sociaux, parce que Julien et moi, on partage, on a quelque chose.
Oui. Pas de vie privée sur antenne.
Ah non, pardon. Mais quand même, un petit peu, nous partageons le même éditeur, figurez-vous. Donc on écrit tous les deux des livres sur le microbiote et tout ça chez le même éditeur, chez Le Duc. Donc c'est ce qui nous a permis de nous rapprocher, hein, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très heureuse de l'accueillir dans cette émission pour lui poser quelques questions que finalement beaucoup de gens se posent. Julien, est-ce que j'ai été assez complète ?
Ouais, merci Véronique pour l'invitation, pour la proposition, puis pour m'introduire comme ça. Oui, en fait, on partage pas mal de choses, hein. La passion pour le microbiote et le fait de vouloir transmettre tout ça via des livres, via les réseaux sociaux, et puis toi via la radio, parce que moi j'ai pas d'émission qui me soit consacrée à la radio, donc bravo, hein, tu vois, tu fais des encore plus
ça
fort
viendra,
que moi.
Ça viendra.
Ah bah, alors là, on va discuter. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. On va discuter. Alors, les questions que tout le monde se pose, évidemment, au gastro-entérologue, déjà pour avoir un rendez-vous, c'est quand même déjà compliqué. Et c'est vrai qu'on a plein de questions. Alors, avant que vous démarriez, Véronique,
oui.
Y a des gens qui disent sur la coloscopie, machin, vous savez, c'est pire depuis que je l'ai fait qu'avant. Est-ce que c'est dangereux de faire tout ça ou est-ce que c'est obligatoire à partir d'un certain âge ou on peut s'en passer?
Ah ben alors là, vous ne pouvez pas mieux tomber parce que ça fait partie des questions et vous ne le saviez pas en plus.
Mais non, parce qu'on ne prépare pas ces émissions.
Et voilà, non, alors ça je ne dirais pas. Mais en effet, Julien, on va démarrer avec ce sujet évidemment auquel on pense tout de suite quand on parle de gastro-entérologie. Mm-hmm. C'est la fameuse coloscopie. Ça a été la semaine ou la journée, je ne sais pas, de la coloscopie récemment ou de la colonoscopie. Et c'est vrai que moi aussi, figurez-vous, dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur les effets de la préparation hein, qu'on nous impose quand même sur la composition du microbiote. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Ouais, alors on va parler, juste avant de parler de microbiote et de préparation colique, effectivement, tu fais bien de le rappeler, il y a eu un événement qui était plus qu'une journée même, en tout cas en France, c'était Mars Bleu. Alors, on revient sur le bleu, ma couleur préférée. C'est pas pour rien, Mars Bleu, c'est le mois en France de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Et donc, c'est un mois où on parle du dépistage organisé qui se fait par recherche de sang dans les selles et où on parle également un peu de coloscopie, puisque c'est à l'heure actuelle l'examen qui permet de dépister le cancer du côlon, le détecter, le diagnostiquer et surtout de le prévenir en arrivant avant qu'il y ait un cancer, en enlevant des polypes bénins avant qu'ils se transforment en cancer. Et donc la coloscopie, oui, ça peut faire peur. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent faire peur dans la coloscopie. La première, c'est qu'en général, ça se fait sous anesthésie générale. Donc pour certaines personnes...
Ah, petit, vous voyez, on a eu une petite interruption pour certaines personnes, l'anesthésie générale.
Eh ben, elle peut effrayer le fait de se laisser endormir par un anesthésiste avec des produits qu'on nous injecte, ça peut faire peur. En général, ça se passe quasiment toujours très très bien. Et puis la deuxième chose qui fait peur, notamment pour celles et ceux qui ont déjà fait une coloscopie, c'est cette fameuse purge, le fait de boire un produit qui va totalement nettoyer les intestins. Donc en gros, il y a entre 2 et 4 litres d'une boisson qui n'est pas forcément hyper bonne à boire, mais qui va complètement nettoyer les intestins. Et donc c'est pas forcément la partie agréable. Et d'autre part, pour ceux qui s'intéressent au microbiote, eh ben, ça peut faire peur sur le fait de dire est-ce que ça va pas décaper le microbiote et est-ce que je vais pas aller moins bien après. Donc c'est la question que vous vous posez. En fait, il y a plusieurs études qui montrent que, en effet, la préparation colique, cette purge, a un impact sur le microbiote. Ça va appauvrir le microbiote, mais de façon assez transitoire. Les études montrent qu'au bout de quelques jours à quelques semaines, le microbiote a repris sa place comme avant la coloscopie. Donc c'est entre guillemets un faux problème et les coloscopies sauvent bien plus de monde que ne dérèglent de microbiote. Donc
comme avant, donc contrairement aux antibiotiques où là on dit que quand même il y a un appauvrissement qui se fait et des modifications qui peuvent parfois être durables dans le temps, ici c'est court terme.
Exactement, la préparation colique, l'impact est bien moindre que pour les antibiotiques. Et puis encore une fois, on n'en a pas parlé là, mais la résilience de notre microbiote, sa capacité à subir un choc et à revenir à son état antérieur, etc., elle varie d'une personne à une autre, elle varie au courant de notre vie. Donc il y a des gens qui vont prendre une fois ou deux ou trois des antibiotiques et puis globalement il n'y aura pas de gros dégâts sur le microbiote quelques mois après. Et puis il y a des personnes qui vont prendre une fois ou deux d'affilée des antibiotiques et puis derrière le microbiote va être déséquilibré de façon durable et conduire à des troubles digestifs, voire à des maladies chroniques.
Mais ça dépend de l'antibiotique aussi, pas que de la personne.
Exactement, ça dépend du type d'antibiotique, mais ça dépend également du microbiote de la personne, de sa capacité de résilience. Et là, on sait que plus on a un microbiote qui est riche, diversifié, et plus il est apte à subir ce type d'agression.
Ce qui est assez logique, finalement.
Tout à fait.
Ouais. Ok. Et finalement, est-ce qu'il existe des conseils pratiques qu'on pourrait donner aux gens qui vont ou qui doivent faire une colonoscopie pour minimiser l'impact? On dit, par exemple, quand on prend des antibiotiques, qu'on peut prendre, que c'est conseillé de prendre des probiotiques pour en réduire l'effet négatif. Est-ce qu'on peut avoir ce même raisonnement pour une préparation colique?
Alors, on ne peut pas vraiment avoir le même raisonnement dans le sens où il n'y a pas d'études qui montrent, contrairement à la prise d'antibiotiques, les bienfaits potentiels des probiotiques à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que ce n'est pas démontré. On peut tout à fait prendre des probiotiques avant de faire une coloscopie et dans les jours qui suivent. Mais le principal, je pense, c'est que autant la coloscopie et la purge peut avoir un impact délétère sur le microbiote, même s'il est moins important qu'une prise d'antibiotiques. L'idée, c'est d'apporter des facteurs protecteurs bénéfiques. Donc, dans la période avant et surtout après la coloscopie, moi, je conseille vraiment, après la coloscopie, d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, d'avoir une alimentation qui soit saine, naturelle, riche en fibres, éventuellement intégrer des aliments fermentés, avoir une activité physique régulière, un bon sommeil. Voilà, tous ces facteurs-là qui sont protecteurs et bénéfiques pour le microbiote, ils sont d'autant plus importants qu'on vient d'avoir une coloscopie et que le microbiote a été légèrement altéré.
Pas de probiotiques alors ?
Eh bien, on peut, mais je n'ai pas d'argument scientifique pour dire qu'il faut absolument le faire, contrairement aux antibiotiques où c'est clairement démontré certains probiotiques.
Là, écoutez-moi, on arrive sur une phase d'émission que j'adore, puisque on voit, et c'est bien Julien, merci d'être avec nous, et vous parlez d'arguments scientifiques démontrés les probiotiques.
On va avoir polémique.
Elle nous tanne, cette Véronique, depuis des mois là, sur les probiotiques, donc vous allez revenir là-dessus, nous donner nous donner votre avis, on va échanger là-dessus, les pour, les contre, les neutres, puisque les études cliniques arrivent de plus en plus nombreuses à foison pour, a priori, démontrer l'intérêt de tels probiotiques ici, d'autres probiotiques par là-bas. Et on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Reste avec nous, le débat va faire rage. Est-ce qu'il y aura un petit peu de fight ou pas, Véron ?
Je pense pas.
Allez, petite pause, on se retrouve juste après ceci.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.
Le retour de cette émission, la révolution microbiote, avec évidemment Véronique Liès sur Nutri Radio et son invité aujourd'hui, le gastro-entérologue Julien Scanzi. On parlait de la coloscopie, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait plus ou moins peur. Vous avez dit beaucoup de choses à ce sujet. Vous avez dit que c'était pour l'instant le meilleur moyen de détecter les cancers et qu'on va aller éliminer des polypes avant qu'ils deviennent cancéreux. On va revenir sur cette partie-là quand même parce que j'ai deux, trois petites questions à vous poser, à savoir est-ce que vous avez dit pour l'instant, est-ce que ça veut dire que dans un futur proche, il y aura d'autres méthodes de détection plus efficaces et tuer les polypes avant, est-ce que c'est toujours bénéfique? Est-ce que ça veut dire que les polypes se transforment forcément en cancer? Bon, on pourrait aborder ces points-là, on va le faire. Véronique, oui, mais auparavant, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit juste avant. Une fois qu'on a fait la purge, une fois qu'on a subi la coloscopie, Julien préconisait d'avoir une alimentation saine, de faire un petit peu de sport, des aliments fermentés, mais il disait les probiotiques, il n'y a pas forcément d'études, et vous, toutes les semaines, vous dites oui, probiotiques par-ci, postbiotiques par-là, synchrobiotiques, j'en sais plus.
Synchrobiotiques. Non, mais ce que Julien veut dire, c'est qu'aujourd'hui, de manière globale, les probiotiques ont évidemment montré un intérêt dans plusieurs domaines, mais que ici, dans le cas précis qui nous occupe, on ne peut pas sortir de notre poche, tac, prenez telle souche, parce que ce n'est pas publié, c'est simplement ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Ce qui n'est pas montré n'est pas nécessairement mauvais, mais on sait aujourd'hui que, et Julien, dis-moi si je me trompe, mais les probiotiques, enfin je sais que je ne me trompe pas, en tout cas pas pour ça, les probiotiques, c'est un effet souche dépendant, quantité dépendant, hôte dépendant, et donc c'est très compliqué évidemment de sortir tac le probiotique de sa poche quoi.
Exactement. T'as résumé parfaitement la situation. C'est pas parce que c'est pas démontré que c'est pas efficace. Et surtout, le problème dont on se heurte, c'est vrai que la médecine doit de plus en plus reposer sur des preuves scientifiques. Et le problème, c'est que les preuves scientifiques, ça coûte très cher. C'est-à-dire pour faire une étude clinique qui démontre les bénéfices d'un médicament ou d'un complément alimentaire, comme les probiotiques, et ben globalement, le plus souvent, c'est des études qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, vous imaginez que tous les laboratoires qui font des probiotiques ou d'autres compléments alimentaires n'ont pas forcément des centaines de milliers d'euros à mettre pour faire une étude pour démontrer un bénéfice qui n'est pas forcément indispensable pour être commercialisé. C'est-à-dire du fait que ce ne soit pas un médicament qui nécessite une autorisation de mise sur le marché, un remboursement, etc. Il n'y a pas de nécessité à faire des études cliniques et donc il n'y a pas d'obligation à dépenser des centaines de milliers d'euros pour essayer de montrer un bénéfice. Donc malheureusement, c'est ce qui complique un peu les choses parce que on manque un peu d'études. Le plus souvent, quand il y a des études sur les probiotiques, quand même, très souvent, ça montre une efficacité, ça montre un intérêt clinique. Le problème, c'est que voilà, avec le problème de ces coûts, de ces essais cliniques, on manque d'essais cliniques.
Ce qui pourrait changer et qui est en train de changer un petit peu avec les nouveaux probiotiques de nouvelle génération, qui vont vraisemblablement, pour certains en tout cas, être enregistrés comme médicaments. Je parle notamment de Fecalibacterium prausnitzii, qui est en cours de recherche là, en tout cas en cours d'évaluation pour sortir justement sous la forme d'un médicament, mais comme tu l'as dit, ça coûte une fortune donc, et ça prend beaucoup de temps, ça prend des années à mettre en place.
Et vous savez qu'il y a d'ailleurs lors du NutriTalk Gala, Julien, vous êtes invité bien évidemment, mais hors antenne vous disiez que c'était pas possible. Je vous mets la pression sur antenne, on sait jamais, vous savez, la pression du direct. De toute façon, en direct, tout le monde dit oui, bien sûr, et puis après, boum, on plante. Non, mais simplement,
le 12 juin.
Le 12 juin, annulé. Qu'est-ce que vous avez prévu le 12 juin?
J'ai pas mal de choses, mais je crois que surtout garder mes enfants en fait.
Ouais, venez avec vos enfants.
Bon, si vous,
on a un service garderie, le mec qui dit n'importe quoi. Non, mais simplement, le 12 juin, on va parler de ces études cliniques et de l'avancée grâce aux jumeaux numériques, grâce à l'intelligence artificielle qui vont permettre dans un futur très proche, j'imagine, de pouvoir faire des études cliniques qui prendront moins de temps et qui coûteront moins cher. Donc, ça sera peut-être aussi au service de la science. Est-ce que vous l'utilisez, vous, l'intelligence artificielle, dans votre pratique aujourd'hui, Julien?
Alors, honnêtement, pas dans ma pratique médicale. Alors, je dis une bêtise parce que c'est en train d'arriver, notamment on parlait de coloscopie et l'intelligence artificielle commence à arriver dans les colonnes d'endoscopie et nous permet d'améliorer un petit peu la détection des polypes. Donc ça commence à arriver déjà, voilà, en médecine ça arrive en endoscopie pour améliorer nos performances en gros. Et puis après moi ça m'arrive de l'utiliser un petit peu dans mon activité sur les réseaux sociaux ou autres, mais en médecine ça commence à arriver, on commence à voir les bénéfices dans le soin du patient.
Et alors est-ce qu'on peut imaginer que la colioscopie, qui est pour l'instant le meilleur moyen de détection de ces polypes et donc de cancer, de prévention, est-ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'instant, il se pourrait qu'il y ait autre chose de moins invasif ?
Alors j'ai mal construit ma phrase, parce que pour l'instant, et je pense pendant très longtemps, la coloscopie restera le seul moyen de détecter des polypes et de les enlever en même temps. On sait qu'il y a des alternatives qui ne remplacent pas du tout la coloscopie. On sait qu'il y a eu des vidéos, des capsules, en fait, des caméras dans une grosse gélule en fait, qui permettent de filmer le côlon. Sauf que le problème de ça, c'était que ça n'empêche pas le côté le plus désagréable de la coloscopie, qui est de boire la purge. Donc c'est ça n'empêche pas au patient de boire la purge avant de faire cet examen-là. Et surtout, si jamais on met en évidence des polypes, ben dans tous les cas, il faut faire une coloscopie derrière pour enlever le polype. Donc, alors que la coloscopie permet de faire en gros tout en un temps, on dort tranquillement, on se rend compte de rien, et pendant ce temps, le gastro-entérologue regarde s'il y a des polypes, et s'il y en a, il les enlève. Donc non, pour pendant longtemps, la coloscopie restera l'examen de référence, à mon sens. Et même si l'IA va nous aider à faire un peu mieux.
Pareil pour le test des selles, qui a quand même aussi bonne presse, qu'on nous propose tous les deux ans à partir de 50 ans, je pense.
De 50 ans, ouais.
Mais c'est pareil, c'est un bon test en soi, mais ça ne remplace pas une coloscopie, dans la mesure où justement, on ne peut pas voir s'il y a des polypes.
Exactement, c'est deux tests complémentaires. En fait, le test de recherche de sang dans les selles est un test du dépistage organisé qui s'intéresse à toute la population de 50 à 74 ans qui n'ont pas d'augmentation du risque de cancer colorectal. Donc, par exemple, si quelqu'un a son frère qui a fait un cancer du côlon, ou sa mère qui a fait un cancer du côlon, ou si quelqu'un a régulièrement des polypes, celui-là ne doit pas faire ce test de dépistage, il fait d'emblée des coloscopies régulièrement. Mais quelqu'un qui n'a aucun facteur de risque de cancer colorectal, qui a plus de 50 ans, qui n'a jamais vu de sang dans les selles, fait le test et on va dire dans 4% des cas, le test va être positif et dans ce cas-là, il sera invité à faire une coloscopie et une fois sur deux, la coloscopie va être bénéfique, va permettre de dépister des polypes avant qu'ils soient cancéreux et dans certains cas, il va même permettre de diagnostiquer un cancer qui était jusqu'à présent asymptomatique et l'avantage, c'est quand on le trouve à ce moment-là, très souvent, le cancer, il est débutant et souvent, le patient sera guéri après une intervention chirurgicale.
Mais en fait, on dit qu'on a tous des cancers qui dorment, justement. Est-ce qu'on a intérêt, quand c'est un cancer dormant, pardon, si je dis des bêtises, mais corrigez-moi, de faire quelque chose ? Est-ce que c'est pas mieux de... Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est une bêtise. J'en sais rien. Véronique, suivez-moi, dites quelque chose, Julien.
j'ai un peu compris le truc. C'est que oui. le problème, c'est que il faut pouvoir... il faut qu'on puisse avoir une action de prévention. C'est-à-dire, le cancer du côlon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait qu'on peut intervenir avant, on peut enlever le polype avant qu'il soit cancéreux. C'est pas la même chose sur d'autres organes ou quand il y a, typiquement, le cancer du pancréas qui cause beaucoup de soucis parce que malheureusement, quand on le diagnostique, c'est souvent déjà un peu tard. C'est parce qu'en fait, le cancer du pancréas, c'est initialement un petit nodule qui fait quelques millimètres. Qu'on ne peut pas voir sur la plupart des examens et surtout on ne peut pas enlever le petit nodule sans enlever le pancréas et enlever le pancréas c'est pas comme enlever un polype en coloscopie. Donc c'est le cancer colorectal se prête très bien à un dépistage de masse et à une détection par coloscopie pour réséquer les polypes etc. Mais c'est pas le cas pour tout pour la plupart des autres cancers voilà où on n'a pas de test de dépistage qui soit aussi fiable.
Bon, mais c'est bien, on a fait le tour, là. On a bien fait comprendre l'importance de ce test et qui ne remplace pas... Et puis bon, comme tu l'as dit, si on n'a pas d'antécédents, c'est après 50 ans, c'est une fois tous les 10 ans, si tout va bien. Ou ça dépend des cas, parfois c'est tous les 5 ans, c'est ça ?
Exactement, ça dépend des cas, tout à fait. C'est entre tous les 3 ans et tous les 7 ans.
Ok. Ok. Ouais. Il y avait une autre question qu'on me pose aussi pas mal, et qui concerne beaucoup de gens, c'est cette fameuse souche Helicobacter pylori. Il y a pas mal de publications qui montrent ou qui disent que presque une personne sur deux sur la Terre porterait cette bactérie. Et parmi tous ces gens, il y a des gens qui sont complètement asymptomatiques, mais qui, à nouveau, dans le cadre d'une prévention, on leur dit, bah, tiens, vous avez un Helicobacter pylori. Est-ce que toi, tu préconises d'office d'éradiquer?
Alors, c'est une très très bonne question, mais qui est presque une question philosophique. En fait, il y a à peu près, tu l'as dit, pas loin de 3 milliards de la population sur Terre qui est porteuse de cette bactérie-là. Donc, en soi, on peut penser que c'est pas une si mauvaise bactérie. Enfin, voilà, si elle nous voulait vraiment du mal, on serait pas 3 milliards sur Terre à en être porteur. Malgré tout, on sait aussi que cette bactérie, la présence de cette bactérie est corrélée à un surrisque de développer des ulcères à l'estomac et même un cancer à l'estomac. Et donc, on est dans une société de prévention, parfois pas assez, mais en tout cas pour ça, pour les Helicobacter pylori, on fait de la prévention, et on se dit qu'on ne peut pas laisser quelqu'un avec une bactérie qui peut augmenter son risque de cancer de l'estomac sans essayer de lui éradiquer cette bactérie.
C'est 1% de risque, c'est ça, non, si je me...
Pardon, j'ai plus le risque en tête, non, je pense que c'est moins que ça sur la population. C'est un risque qui est très faible, mais un risque qui existe, c'est le cancer de l'estomac. Je parlais du cancer du pancréas tout à l'heure, le cancer de l'estomac, c'est pas drôle non plus. Donc on peut pas, dans notre société, on n'arrive pas à laisser les gens avec cet Helicobacter pylori si jamais ça peut augmenter ce genre de risque. Donc il est recommandé, quand on le dépiste, quand on le diagnostique chez quelqu'un, de l'éradiquer. Donc voilà, donc après je sais pas où tu voulais en venir par rapport à ça.
Oui, où est-ce que vous voulez en venir, Véronique?
Où est-ce que vous voulez en venir? Non, mais c'est vrai, il y a des personnes, le traitement il n'est pas drôle non plus. On a parlé de l'impact quand même négatif des antibiothérapies, et là on parle quand même d'une trithérapie, voire avec le bismuth, etc. C'est quand même assez ravageur comme traitement. Donc en termes de bénéfice-risque, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment... Il y a consensus, je dirais, au niveau international, mais tout le monde n'est quand même pas toujours d'accord avec cette idée d'aller ravager. C'est un traitement, moi j'en ai eu plusieurs autour de moi, qui est quand même assez difficile à supporter, avec des gens parfois qui arrêtent tellement ils sont mal à cause du traitement. Et donc loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas se soigner, hein, mon Dieu, parce que justement ce bénéfice-risque, Je m'interroge, parce qu'il y a des publications maintenant qui tendent à montrer qu'au-delà du risque de cancer de l'estomac, il y a d'autres types de cancers qui seraient aussi concernés. Donc je ne sais pas si toi tu as des infos là-dessus.
Alors franchement, je partage ton avis, et c'est pour ça que je dis que ça devient une question philosophique, parce que... D'un point de vue médical, il faut rechercher l'Helicobacter pylori, il faut l'éradiquer. En fait, à l'échelle individuelle, il semblerait qu'il y ait un bénéfice. Par contre, à l'échelle d'une population, mettre des milliers, des centaines de milliers de personnes sous ce genre de triple, voire quadrithérapie avec des antibiotiques à large spectre pendant 10 à 14 jours en général, qui sont des traitements qui sont très mal tolérés et qui détruisent considérablement le microbiote, à l'échelle d'une population, je pense qu'on fait des dégâts importants. Je ne parle même pas de l'antibiorésistance, qui est un autre problème et dont on pourrait parler aussi. Et moi, pour rebondir là-dessus, ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années de devoir faire une transplantation de microbiote fécal, c'est-à-dire de transférer les selles d'un individu sain à une personne dont on avait voulu éradiquer Helicobacter pylori parce qu'elle avait des petits problèmes gastriques, des problèmes gastriques qui ont même persisté après l'éradication d'Helicobacter pylori, donc qui n'étaient pas liés à la bactérie, et dont l'éradication par ces grosses antibiotiques ont entraîné une infection à une autre bactérie qu'on appelle Clostridioides difficile. Ouais. Et dont la patiente n'arrivait plus à se sortir. Voilà. Et donc j'ai dû faire une transplantation fécale, et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les bénéfices et les risques liés à l'éradication systématique de cette bactérie à l'échelle d'une population.
Julien.
Oui.
J'ai énormément de questions encore à vous poser. Vous savez pourquoi, mais on va pas vous prendre plus de temps. On aura l'occasion de... en plus, là, on arrive sur la période du mercato. On prépare la saison prochaine, Nutri Radio. On va vous harceler. Ça vous dirait de revenir régulièrement un peu sur Nutri Radio, Julien?
Avec plaisir. Là, l'ambiance a l'air sympathique. Ah, je reviendrai avec plaisir.
En plus, si vous êtes en studio, là, parce que moi, je peux vous dire qu'on a tout. Vous êtes bien reçu.
Ah, mais je suis toujours bien reçu. J'ai même droit à un café, alors, pour vous dire.
On fait 50% de remise sur le café à chaque fois qu'elle vient. Je peux vous dire que la cagnotte augmente. Non, dites-moi, on a énormément de mails à travers toutes les émissions que l'on peut proposer. Et un des sujets les principaux sont les maux de ventre, les problèmes gastro-intestinaux. Est-ce que vous avez noté dans votre activité une recrudescence de tous ces problèmes-là? Ou est-ce que c'est une imagination? Ou est-ce que tous ceux qui ont des maux de ventre ont rendez-vous sur Nutri Radio? Voilà.
Non, je pense qu'en fait c'est un problème qui touche énormément de gens. Alors moi, il y a un biais qui est lié au fait que je sois gastro-entérologue, et donc ce que je dis à mon fils, c'est que je suis docteur du ventre. Donc la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, oui, très souvent, ils ont des problèmes de ventre. Donc c'est un biais. L'autre biais aussi, c'est que je suis un jeune gastro-entérologue, donc je peux pas vous dire il y a 30 ans il y avait moins de maux de ventre, mais globalement on a quand même l'impression clairement que les gens ont de plus en plus de soucis digestifs. Et ça, je saurais assez bien l'expliquer, et probablement que Véronique vous l'explique régulièrement, mais c'est qu'on a un mode de vie et une alimentation actuellement et depuis quelques décennies qui est délétère pour notre microbiote, qui est délétère pour nos intestins, notre système digestif, et qui favorise tous ces problèmes de ballonnement, de troubles du transit, etc.
Et on parle aussi, pardon, hein, j'en profite, l'hydrothérapie, vous en pensez quoi? C'est l'hydrothérapie du côlon? Non, mais parce que écoutez, moi, je suis allé voir un ami qui me dit, mais Fabrice, c'est extraordinaire, tu devrais faire ça.
J'ai expliqué.
C'est une pratique qui consiste...
Pour le coup, moi, c'est une question que j'ai énormément sur les réseaux sociaux et à laquelle je n'ai pas encore répondu parce que je ne veux pas répondre individuellement. J'ai dit, je vais faire un sujet, je vais faire un post là-dessus pour au moins clarifier les choses d'un point de vue médical en 2025. Je ne dis pas que les choses vont pas changer plus tard, mais à l'heure actuelle, l'hydrothérapie, le fait de se soigner en se lavant l'intérieur de l'intestin, n'a pour l'instant pas de bénéfice démontré d'un point de vue scientifique. Il y a aucune étude qui montre un potentiel bénéfice de se laver l'intérieur de l'intestin. Et puis le côlon est censé, quand il fonctionne pas trop mal normalement, faire le taf de enfin, c'est un organe d'épuration en gros, entre autres, hein, parce qu'il a d'autres atouts, y compris, enfin, notamment avec tout le microbiote intestinal, mais il a aussi cette fonction d'être une station d'épuration et de se vider, etc. Donc pas forcément besoin de le laver de façon artificielle. Et quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui fleurissent parce qu'on parle d'hydrothérapie, donc ça sous-entend que c'est lavé à l'eau, mais on voit des choses avec du café, avec tout un tas d'autres choses, donc il y a des choses très folkloriques. Pour l'instant, en tout cas, la science et la médecine ne valident pas les bénéfices potentiels de ce genre de thérapie.
Et de la même façon...
risqué également.
Et puis, même de l'autre côté, l'autre orifice chez la femme, on sait très bien que les douches vaginales, c'est pas bon non plus. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit bon d'un côté et pas de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. On va terminer peut-être sur cette grande...
Ah bah oui, alors là, je vous attendais pas là-dessus, mais merci beaucoup, Véronique, d'avoir replacé ce débat. C'est très intéressant. Il faut absolument, Julien, voilà, c'est une thématique gastro-entérologue, il y a plein de sujets que vous abordez, les maux de ventre, c'est les maux du siècle et peut-être des années encore à venir. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver en plus dans les colonnes pour la coloscopie, donc ça va, j'imagine, encore bouleverser, faire avancer tout cela du bon côté. Et vous êtes un jeune gastro-entérologue, donc ça veut dire que vous êtes motivé et donc vous allez venir sur une radio nous partager. Non, mais c'est bien de partager ces savoirs, c'est hyper intéressant. Merci Véronique d'avoir...
Grand plaisir,
fait cette mise en contact. Donc, c'est votre confrère hein, pour la saison prochaine. Non seulement un confrère d'éditeur, mais de radio. Bon, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'était passionnant. On va vous libérer. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir, Julien.
À bientôt, Julien.
Merci et au revoir.
Julien Scandi, c'est sur Nutri Radio. C'était top. Un bon moment. On a passé. N'enlevez pas votre casque.
Il
y a un petit générique quand même. C'est une bonne idée. Vous avez un bon carnet d'adresses. Bravo. Bravo. Je suis ravi. De ce feat charré, c'est un peu le... comment dire? C'est un feat charré, vous savez ce que c'est un feat charré? En espagnol, un recrutement dans les clubs là, de foot.
Okay.
Une recrue, c'est le mercato.
D'accord.
Allez, c'est le retour de la musique, cette émission. Vous la retrouvez en podcast. Si vous êtes sur le live de Nutri Radio et que vous voulez vous la refaire dans son intégralité sans interruption, c'est en podcast tout de suite sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis Véronique, hein, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.